Bonjour et bienvenue sur Homo Ludens, le podcast qui libère le potentiel du jeu. Dans chaque épisode, un acteur du monde du jeu témoigne des bénéfices du jeu dans son domaine d'activité. Aujourd'hui, j'accueille Farid Ben Salem. Farid est un touche-à-tout du jeu. Dans cet épisode, on parle des différents types de jeux, mais aussi de l'évolution des usages du jeu et des joueurs, ainsi que de sa vision concernant les jeux de demain. Bonne écoute! Bonjour Farid Ben Salem.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors moi, je suis un touche-à-tout dans le domaine du jeu. Donc, je ne travaille que dans le domaine du jeu et un peu à tous les niveaux. Donc je crée des jeux, que ce soit des jeux de plateau, des jeux de rôle ou des jeux vidéo, ou même des jeux hybrides qui mélangent jeux vidéo et jeux de plateau. J'ai écrit des articles, j'ai même animé une émission sur les jeux, alors plutôt les jeux de table, hein, les jeux de société chez PokerStar. Une émission qui durait 3 heures en direct et j'ai reçu tout le petit grand monde du jeu, donc c'est comme ça que je connais tout le monde. C'était assez rigolo, on testait des jeux en direct et puis l'objectif c'était que je m'efface. Et que les personnes présentes, qui étaient soit des auteurs de jeux, des illustrateurs, des éditeurs, des distributeurs, des ludothécaires, se découvrent, se présentent, et que les gens découvrent un peu l'envers du jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Je travaille beaucoup avec des entreprises qui veulent du jeu. Alors du jeu au sein de l'entreprise, intra-entreprise, donc ce qu'on appelle maintenant un terme que je détestais il y a quelques années, mais que j'utilise beaucoup maintenant, qui est la gamification. Alors par contre, j'emploie pas du tout Serious Game parce que je trouve que c'est très galvaudé et que c'est pour cacher certaines choses. Bref, on pourra en reparler. Et donc, beaucoup d'entreprises qui veulent des jeux pour de la formation, pour du team building, la cohésion d'équipe, pour de la communication, du marketing, différentes choses. Et sinon, j'ai enseigné l'escrime, qui est pour moi le jeu des jeux pendant très longtemps et que je gamifiais d'ailleurs avec les petits. Donc du coup, j'étais sûr de garder mes licenciés d'une année à l'autre, ou presque. Et puis voilà, j'ai fait beaucoup de management avant, de gestion, etc., qui me sert beaucoup aujourd'hui. Et puis j'enseigne beaucoup ce qui est game design, jeux sur table, beaucoup, jeux de plateau, jeux de rôle, escape game, livre dont vous êtes le héros, un peu jeux vidéo, et dans les grandes écoles et universités. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, hein. J'ai dû oublier des trucs, mais
ouais, c'est déjà
j'ai lancé le sport de combat au sabre laser il y a 3 ans, en France, en créant une académie, en mettant en place les bases, etc. Et c'est aujourd'hui reconnu par la Fédération Française d'Escrime, d'ailleurs.
D'accord. Et pourquoi, voilà, alors, est-ce que tu appelles ça le jeu des jeux, l'escrime ?
Parce que c'est un affrontement 1 contre 1, alors ça peut être aussi équipe contre équipe, hein, 3 contre 3 ou 4 contre 4 avec un remplaçant. Et puis vous êtes face à un adversaire, bon, il y a les règles propres à l'escrime évidemment, mais c'est du combat physique. Vous ne savez pas ce que l'adversaire va faire, il ne sait pas ce que vous allez faire. Et l'objectif, c'est de tenter de le faire réagir pour tirer parti de sa réaction. En fait, il faut savoir que, comme beaucoup de sports de combat d'ailleurs, l'escrime, c'est un sport de roublard. Donc, on passe son temps à faire croire que, et pour tenter de tromper l'adversaire. Donc, c'est pour ça, c'est très... Mais comme tous les sports, attention, un sport, à la base, c'est un jeu, hein, c'est des règles, c'est un objectif commun aux adversaires. Et c'est pour ça que tout sport est un jeu au départ. Et pour moi, l'escrime, c'est le jeu des jeux, parce que bon, voilà, je l'ai enseigné longtemps. Pratiqué longtemps, mais bon, je pourrais dire la même chose du foot aussi, que j'adore. Hein.
Et du coup, selon toi, qu'est-ce qui constitue un jeu ?
Bah justement, c'est ce que je disais, c'est un ensemble de règles, même minime soit-elles, et un objectif pour aller vers la victoire. La plupart du temps, évidemment, après, il y a des exceptions à cela. Ça peut être, comme on le voit de plus en plus souvent, avec les jeux coopératifs, où cette fois, on joue ensemble, toujours avec des règles, pour tenter de battre le jeu. Après, oui, il y a plein de dérivés, etc. Il y a des jeux asymétriques. Donc, au départ, c'est un ensemble de règles et un objectif. Et encore une fois, ça peut varier parce que l'objectif n'est pas obligatoirement commun aux deux adversaires ou à l'ensemble des adversaires. ça peut être des objectifs différents, etc.
Ouais, d'accord. Donc, dans ta présentation, tu as parlé de beaucoup de sortes de jeux différentes. Est-ce qu'il y a un classement qui existe des jeux ?
Alors, il y a des concours, il y a des prix. Il y a des prix de qu'on peut retrouver comme celui du Festival international des jeux à Cannes, qui est maintenant un événement très important, ou celui de Trick Track aussi, qui est le site principal concernant les jeux de table, les jeux de plateau, qui propose son Trick Track d'or tous les ans, etc. Après, je sais pas si tu parles d'un autre classement.
Je pensais
une autre sorte de classement. Tu veux peut-être des familles de jeux.
C'est ça. Je pensais. On a parlé du jeu de plateau. T'as parlé vite fait du jeu de rôle. Il y a un peu le sport avec l'escrime, le jeu vidéo. Est-ce que ça permet déjà de classer les différents types de jeux ? Est-ce qu'il en existe d'autres ?
Concernant les jeux tangibles, c'est-à-dire les jeux qui ne sont pas des jeux vidéo, on va dire, il y en a plein de différentes sortes. Il y a les jeux, les party games, les apéro games, les jeux d'ambiance, les jeux de gestion, les jeux de stratégie, les jeux de réflexion, les jeux d'adresse, etc. Pareil, dans les jeux vidéo, il va en avoir différents. Il va y avoir des FPS, des STR, des jeux de plateforme, des jeux d'aventure, des point and click, etc. Donc oui, à chaque fois, on va retrouver différents types de jeux qui permettent déjà de donner une petite idée de ce que va être le jeu. Et c'est important d'ailleurs, parce que quand on parle d'un jeu de société, d'un jeu de plateau, c'est important au départ, dans son pitch, d'indiquer quel type de jeu ça va être. Pour que la personne puisse commencer à visualiser, si elle n'a qu'une description orale, de commencer à visualiser ce que peut être le jeu.
Et quel lien peut-on faire entre ces différents types de jeux, s'il en existe ?
Alors le lien, ça peut être un lien matériel ou immatériel, d'ailleurs. Par exemple, pour différents types de jeux de table, ça va être est-ce qu'il y a la présence d'un plateau, donc d'un support spécifique au jeu, mais après ça peut aller beaucoup plus loin. C'est ce que j'explique souvent à mes étudiants, c'est qu'en fait un type de jeu dit de cartes, un jeu de cartes, en fait on peut le considérer comme un jeu de plateau parce que le support c'est la table. Donc c'est comment on définit le support aussi. Après ça peut être oui, mais est-ce que le support est prévu dans la boîte de jeu? Donc si le support est prévu dans la boîte de jeu, donc le plateau. Donc on pourrait dire que c'est un jeu de plateau. Donc en fait ça reste encore vague, mais même un jeu de figurines où on joue directement sur la table ou sur une nappe ou sur une fausse moquette, etc. On pourrait dire aussi que c'est un jeu de plateau. Mais dans ce cas-là, ce qui permet de les réunir, c'est le fait que ça soit tangible, au contraire d'un jeu dématérialisé comme un jeu vidéo. Où là, ce qui apparaît du jeu, c'est sur un écran. Donc, la grosse différence qu'on connaît tous, hein, c'est les jeux tangibles et les jeux dématérialisés. Donc, en fait, c'est les jeux de table et les jeux de vidéo. Mais quand je dis jeux de table, c'est pareil, hein, c'est jeux de table. On peut jouer par terre, on peut jouer un peu n'importe où aussi. C'est très difficile de trouver un terme précis. Le terme le plus précis, ça serait jeu tangible, mais ça englobe beaucoup, beaucoup de choses. Ça englobe aussi un type de jeu qui n'est pas du tout un jeu de table, et encore, ça existe maintenant. C'est tout ce qui est live escape room, ou souvent appelé escape room ou escape game, donc qui pousse comme des champignons partout depuis 4-5 ans, et on vous enferme dans une pièce et de par des énigmes, des objets à trouver, il faut sortir en moins d'une heure d'une pièce. Ça, c'est un jeu tangible, mais qui ne se passe pas autour d'une table. Mais maintenant, on a des dérivés sous forme de jeux de cartes, de jeux de plateau, qui reproduit ce type de jeu. Donc en fait, à chaque fois, ça tourne en rond. Mais c'est la même chose avec les jeux vidéo aussi, hein, la relation entre les jeux vidéo et les jeux tangibles. En fait, c'est une longue histoire d'amour, entre guillemets, et en fait, les jeux de vidéo se sont beaucoup inspirés des jeux tangibles, et surtout au départ, C'est pour ça, pour moi, c'est une grosse référence de Donjons et Dragons, donc le premier jeu de rôle commercialisé. Oui, il y a différents jeux de rôle qui ont existé avant, qui étaient plus ou moins des jeux de rôle. Il paraît que ça existe depuis très longtemps, en fait, mais sûrement d'ailleurs. Et Donjons et Dragons a permis très vite d'aller plus loin dans la création et surtout dans la création de jeux vidéo. Et on peut presque dire que les premiers jeux vidéo existent grâce à Donjons et Dragons parce que c'était des étudiants dans les années 70 à l'université, parce que à l'époque il y avait des ordinateurs seulement dans les universités ou dans les grandes entreprises, et qu'on commençait en jouant à Donjons et Dragons en disant bah tiens, ça doit être facile à reproduire sur un ordinateur, évidemment sous forme textuelle, sans graphisme. Donc c'était des jeux d'aventure textuelle, et ils leur donnaient des noms barbares, le IAX32F, je sais pas quoi, parce qu'ils avaient peur que les professeurs tombent dessus et effacent tout. Donc voilà. Et après, on a vu arriver évidemment tout ce qui est MMO, les jeux en ligne multijoueurs comme World of Warcraft, qui encore une fois s'inspire beaucoup des jeux de rôle. Et puis après, c'est les jeux de rôle qui se sont inspirés beaucoup des jeux vidéo, ou des jeux de plateau aussi d'ailleurs, s'inspirent de plus en plus des jeux vidéo aussi. Donc c'est quelque chose qui tourne en rond continuellement. Ça qui est intéressant d'ailleurs, on a cru depuis les années 90, on a cru que le jeu vidéo allait faire disparaître complètement le jeu tangible, le jeu de société, par exemple, et le jeu de rôle. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Au contraire. Ces derniers temps, ça explose. Et le plus étonnant, c'est le jeu de rôle qui revient en force depuis 5 ans et qui maintenant se démocratise dans tous les sens. Et c'est marrant parce que moi, quand j'écrivais des articles dans les magazines, comme j'interviens beaucoup sur les réseaux sociaux, moi, j'avais prévu l'arrivée, le retour du jeu de rôle. Et à l'époque, beaucoup de gens disaient, mais non, mais n'importe quoi, les jeux de rôle, c'est trop difficile, c'est pas accessible, ça marchera jamais. En fait, bah voilà, maintenant, on en est à des personnes, des millions de personnes qui regardent des parties de jeux de rôle en direct, donc des gars et des nénettes assis autour d'une table, quoi, en train de jouer. Et ça, avant, on n'aurait jamais imaginé, ils sont en train de regarder ça en streaming sur Twitch, etc. Alors évidemment, beaucoup aux États-Unis et beaucoup en France. Je pense que la France et les États-Unis, c'est les pays qui développent beaucoup à ce niveau-là, mais je pense que l'Allemagne et l'Angleterre n'est pas loin derrière. Et c'est incroyable. Maintenant, c'est même plus, on regarde... Parce que je peux comprendre que moi, je ne le fais pas trop. J'aime bien regarder en jeu vidéo, j'aime bien regarder des parties en mode compétition au niveau de Overwatch, le jeu vidéo, parce que j'y joue régulièrement. C'est un petit jeu que... Pour moi, c'est un jeu casual qui me permet un peu de penser à autre chose. Et j'aime bien regarder les parties pour voir comment ça se passe techniquement, tactiquement. Et je comprends que les gens regardent, parce que c'est comme regarder du foot, en fait, ou un autre sport, quand on connaît le fonctionnement. Et là, par contre, on voit des personnes quand même... Non, mais c'est incroyable, hein, des gens qui sont assis autour d'une table en train de jouer à un jeu de rôle. C'est incroyable. Moi, j'ai fait psychologie du travail au CNAM, à Paris. Et comme support à mes mémoires, j'utilisais beaucoup le jeu de rôle pour les relations entre les personnes, qui est le dominant, qui sont les dominés, etc. Et je me filmais avec mes potes, et c'était juste la mort, quoi. Quand on regardait la vidéo, il se passait rien. Alors qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui regardent des trucs comme ça. Bon, il y a des personnes, évidemment, des joueurs et des maîtres de jeu qui sont très très forts, qui sont des acteurs. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de personnalités. Plus en plus de personnalités qui arrivent à des tables de jeux de rôle et qui mettent l'ambiance et qui font marrer tout le monde, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui changent dans le jeu là.
Est-ce que pour ceux qui savent pas ce que c'est, est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est le jeu de rôle?
Alors, le jeu de rôle, c'est un jeu, c'est la quintessence du jeu. Là, je commence direct comme ça pour qu'on puisse pas comprendre. Le jeu de rôle, c'est un jeu asymétrique. Vous avez Alors moi, maintenant, les maîtres de jeu, je les vois plus comme des animateurs. En fait, je pense que ça a toujours été le cas. C'est un animateur qui propose à des personnes, à des joueurs, de passer un bon moment, de vivre une aventure, en fait. Quel que soit le domaine ou le monde dans lequel les personnages des joueurs vont évoluer. Et c'est une aventure entre joueurs, entre potes, ou deux personnes qui se connaissent pas. D'ailleurs, ça permet de faire connaissance, c'est très bien. Le jeu de rôle, c'est parfait pour ça. C'est pour ça que c'est peut-être le jeu le plus social, le plus sociétal. Et ça, ça permet de vivre un bon moment, une aventure, tenter de résoudre une aventure à plusieurs. Donc, un jeu de rôle, c'est souvent de l'enquête, des courses-poursuites, de la baston, comme on peut trouver dans les films. Dans les films, un peu tout type de films, donc ça peut être, on peut jouer des hommes préhistoriques, on peut jouer des agents secrets dans un monde contemporain, on peut jouer des espèces marines de l'espace, c'est un peu redondant ce que je viens de dire, des magiciens, des guerriers, des barbares, des voleurs dans un monde médiéval fantastique, un peu à la Seigneur des Anneaux. Et je dis que c'est la quintessence des jeux parce qu'en fait, le jeu de rôle permet de reproduire, en fait, toutes les situations, déjà un de la vie réelle, mais aussi d'un monde imaginaire. Et pour les autres jeux, pour un jeu de plateau, c'est beaucoup plus difficile parce qu'un jeu de plateau, en fait, très vite, c'est une abstraction du temps et de la vie réelle parce qu'on doit découper le temps en tours, souvent, la plupart du temps. Et évidemment, donc là, il y a des règles bien précises. On est limité dans ce qu'on peut faire. Pareil avec un jeu vidéo. Donc les jeux vidéo, comme je disais tout à l'heure, qui tentent de reproduire ce qu'on peut faire dans un jeu de rôle. Et évidemment, on est très vite limité par la technique. Parce qu'évidemment, une application comme World of Warcraft, d'ailleurs, ou d'autres plus connus, dès que vous êtes face à une situation, tout ne peut pas être reproduit. Et un joueur ne peut pas faire tout ce qu'il veut parce qu'on est limité techniquement par la technologie de l'ordinateur et deux, de l'application. Parce qu'on pourrait faire un jeu qui permet de tout reproduire comme dans la vie réelle. Par exemple, je suis poursuivi par un ours que je viens d'embêter dans World of Warcraft. En fait, au lieu de continuer à courir bêtement jusqu'à ce qu'il me lâche, je peux pas monter à l'arbre. Je peux pas monter à l'arbre pour qu'il me laisse tranquille, etc. Parce que techniquement, c'est pas prévu dans l'ordinateur. Il y a des jeux qui peuvent le prévoir, mais ça veut dire que il y a beaucoup de temps homme, de ressources humaines qui ont passé du temps dessus. Évidemment, j'exagère un peu, mais c'est pour l'exemple. Du coup, c'est un jeu qui va coûter très 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 cher et qui va prendre beaucoup beaucoup de temps et qui va avoir un volume technique très important. Et je suis pas sûr que ça va sortir un jour. Hein. Peut-être dans un futur très lointain. Et c'est un jeu qui coûtera cher, donc de toute façon, ça ne va pas intéresser beaucoup de monde. Donc c'est pour ça que le jeu de rôle, je dis que c'est la quintessence du jeu, parce qu'on peut tout reproduire. Et c'est pour ça aussi que la CIA aujourd'hui, qui utilisait beaucoup de jeux vidéo pour reproduire certaines choses, pour simuler en tout cas, en prévision de situations, de missions, etc. ou autre, maintenant utilise beaucoup le jeu de plateau pour les aspects gestion et stratégie, et le jeu de rôle pour les aspects opérationnels, sur le terrain, etc.
Okay. On en a parlé un petit peu, est-ce qu'il y a des mécanismes que l'on retrouve dans les différents types de jeux dont on a parlé tout à l'heure?
Des mécanismes communs?
Les mécaniques de jeu qu'on peut retrouver dans un jeu vidéo, dans un jeu tangible?
Alors, en fait, l'intérêt d'un jeu vidéo, un peu comme dans un jeu de rôle, c'est qu'on peut, et en fonction des moyens qu'on a, des ressources qu'on a, on peut simuler un peu la vie réelle, le temps réel. C'est-à-dire qu'on peut passer en mode, pas en tour par tour, comme dans un jeu de société, où on joue chacun son tour, avec des règles bien définies, etc. Du coup, ça peut, pour certaines choses, ça peut un peu se rapprocher de ce qu'est le jeu de rôle. Et encore, le jeu de rôle, à un moment donné, évidemment, quand on est dans une situation de stress tendu, donc par exemple une course-poursuite, évidemment, à un moment donné, c'est souvent le cas dans la plupart des jeux, on va passer dans un mode abstrait, dans un mode de découpage du temps, donc au tour par tour, où le maître de jeu va demander à chaque joueur, chacun son tour, alors qu'est-ce que tu fais, toi, pour les 10 prochaines secondes du temps de jeu, etc., etc., parce que il faut que, en fait, les protagonistes que gère le maître de jeu, donc ça peut être ce qu'on appelle les personnages non-joueurs, ça peut être, c'est souvent les adversaires des joueurs, les méchants de l'histoire, il faut aussi qu'ils puissent intervenir aussi, pendant que les joueurs interviennent aussi. Donc on est obligé de découper le temps de façon abstraite à un moment donné. Ce qui est souvent maintenant, de plus en plus aussi, ce qu'on retrouve, c'est la dématérialisation de jeux tangibles, donc souvent de jeux de plateau, et des jeux très connus, on va les retrouver en jeux vidéo. Alors c'est souvent, très souvent, exactement les mêmes règles, mais des fois, on va s'adapter au support informatique, au support électronique, parce que on va essayer de trouver des éléments qui font que, alors on a une machine qui est capable de faire des milliards de calculs à la seconde. Si on met le Monopoly dessus, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce qu'on refasse, on reproduise exactement ce qui se passe autour d'une table avec 4 joueurs? Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter certaines choses, etc., en utilisant cette puissance de calcul? Alors déjà, on peut l'utiliser, cette puissance de calcul, en créant une intelligence artificielle qui va jouer contre le ou les joueurs. Parce qu'un gars qui a envie de jouer au Monopoly, qui adore ça, ça existe, hein, il peut sur son smartphone, hein, le smartphone c'est l'équivalent d'un ordinateur maintenant, il peut jouer tout seul avec une application Monopoly et contre une intelligence artificielle qui va s'adapter à son niveau, ou c'est lui qui va choisir le niveau, etc. Après, et inversement, il y a beaucoup de plus en plus des jeux de plateau qui s'inspirent directement de jeux vidéo connus, et là évidemment, bien sûr, vu que, alors c'est souvent des jeux d'action où le passage du temps qui est plutôt réel dans les jeux vidéo. Alors quand on le passe en jeu de plateau, bah là du coup, comme je disais tout à l'heure, on rentre dans l'abstraction, on est obligé de découper le temps. Et évidemment, on n'a pas les mêmes sensations de jeu. Mais on peut quand même retrouver, il y a des jeux qui le font très bien. Et qui, malgré un découpage du temps et une limitation des actions, on arrive à retrouver les sensations du jeu vidéo. Je pense à des jeux comme Gears of War, qui est un jeu de vidéo très connu. Le jeu de plateau est très très bien, ça reproduit pas mal. On joue en coopératif contre le jeu, et ça représente bien ce qu'on vit malgré tout dans le jeu vidéo, comme aussi... alors là, par contre, je parle d'une série télé, Battlestar Galactica. Il y a un jeu de plateau qui est sorti il y a maintenant peut-être 15 ans, qui est très 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 bon et qui reproduit bien ce qui se passe dans la série télé aussi. Donc bon, voilà quoi. Malgré tout, malgré le passage dans l'abstrait, le découpage du temps de façon un peu bizarre, on peut reproduire certaines choses de jeux vidéo, de séries télé, de films, etc.
D'accord. Bon, j'ai une question pour l'auteur de jeu. Comment on en vient à créer des jeux ?
Moi, en fait, je crée des jeux depuis très très longtemps. Mon dernier souvenir, c'est 6 ans. Donc, je me souviens, je revois encore le jeu que j'avais créé. Et alors, moi, je créais beaucoup déjà. Donc, je voulais être inventeur. Donc, je créais même des meubles. Je récupérais les cartons de lessive de mes parents. Quand il n'y avait plus de lessive dedans, je faisais des trucs avec. J'avais même fait un flipper en carton, et mes copains venaient à la maison rien que pour jouer avec ça. Donc moi, j'ai toujours voulu créer, et je créais parce que j'avais un père qui était très sévère et qui ne voyait que l'école et le conservatoire, et sa mentalité tunisienne. Et du coup, j'étais un peu frustré, j'avais pas beaucoup de jeux, mais quand j'allais chez des copains pour jouer, en fait, tout de suite, quand je rentrais à la maison, et comme mon père travaillait, il était, directeur dans une imprimerie, donc on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de papier, de carton à la maison. Et donc, je passais mon temps à bricoler et à reproduire les jeux que je voyais chez mes copains. Donc, fatalement, au bout d'un moment, après adulte, moi je suis parti tout chez mes parents à 18 ans, à 18 ans déjà, j'étais à fond dans les jeux de rôle, les jeux de plateau, parce que c'était la période du lycée, etc. Et après, très vite, j'ai commencé à essayer de concrétiser ce qu'était la création de jeux, mais plus pour mes copains. Et parce que comme je suis quelqu'un qui n'est pas du tout ambitieux, que je ne cherche pas à faire connaître absolument ce qu'il a pu créer, en fait, je crée que pour mes copains de lycée avec lesquels on a joué encore pendant 20 ans, souvent au jeu de rôle, au jeu de plateau, etc. Donc je crée pour eux tout le temps, je crée des jeux, des façons de jouer dans des principes, des mécaniques pour des jeux de rôle. Donc c'était mes bêta testeurs. Et puis ça s'arrêtait là. Puis bon, après il y a différentes choses qui ont fait que c'est devenu un métier.
Ça marche. Et c'est quoi du coup les différentes étapes pour créer un jeu?
En fait, moi, j'ai toujours reproduit. J'ai toujours, comme je suis très curieux, très très curieux et touche à tout. J'ai au niveau de mes métiers, des professions que j'ai exercées, j'ai je suis un peu allé dans tous les sens. On va peut-être dire même que je suis instable. Donc j'ai touché à plein de choses. Et pareil au niveau du fait que je suis curieux, même au niveau des activités, j'ai touché à pas mal de choses. Donc je dessine, je fais de la musique, je fais beaucoup de sport, enfin moins maintenant quand même. Hein. J'adore l'histoire des civilisations et des technologies, j'adore bouquiner. Donc à travers ça, le fait de tout... Déjà, entre parenthèses, ça c'est ce qu'on dit aux étudiants en plus en début d'année, c'est un game designer, un auteur de jeu. Que ce soit jeu vidéo, jeu de plateau haute, il se doit d'être curieux et touche à tout, et avoir une certaine culture quand même. C'est très important, que ce soit pour la création de mécaniques de jeu ou la création aussi d'un univers. Pour qu'un univers soit cohérent, il faut avoir des connaissances, pas seulement avoir Google, hein, ça ne suffit pas, parce que Google, ce qu'on y trouve n'est pas suffisant. Il faut pouvoir synthétiser tout ce qu'on y trouve, et pour ça il faut pouvoir avoir une bonne culture de base. Et donc moi en fait tous les métiers que j'ai exercé, j'ai toujours tenté d'y apporter des éléments de jeu. Donc quand je faisais du management en fait, les gars et les nénettes que je manageais, je faisais des fiches de personnages entre guillemets avec différents paramètres pour voir leur évolution, pour savoir à quel moment je m'entretenais avec eux pour leur dire attention, là il faudrait que quand même machin, là il faudrait que tu corriges ça, là bravo, très bien, etc. Donc j'avais des sortes de fiches de personnages en escrime, comme je disais tout à l'heure. En escrime, j'ai très vite amené pour les gamins, hein. Quoique les adultes aussi, pour les gamins, j'ai très vite amené des principes de jeux vidéo, de jeux de plateau, de jeux de rôle dans l'escrime, dans les combats. Et les combats devenaient des sortes de jeux de rôle où ils devaient s'exprimer de façon théâtrale, pour appeler un peu Cyrano de Bergerac, mais aussi, il y avait des mécaniques pour gagner des points d'expérience, pour acheter des pouvoirs, pour des pouvoirs qui permettaient d'acheter... des points d'expérience qui permettaient d'acheter par exemple le pouvoir de combat à deux armes, le pouvoir d'arme vampirique. En plus, je créais ça avec les gamins, donc ils participaient à la création. Et il y avait des niveaux, celui qui avait le plus de points d'expérience, c'était le prince, en dessous c'était le duc, etc. Donc les gamins, ils étaient comme des fous. Ou j'avais créé aussi corsaire contre pirate avec les corsaires sur une piste, les pirates sur une autre piste, côte à côte, et ça représentait deux bateaux. Donc, ils devaient combattre avec certaines règles bien spécifiques, en face à face, par équipe, en même temps, etc. Ça, pareil, ils adoraient ça. Et puis, c'est comme ça, d'ailleurs, que c'est venu que quelqu'un m'a alpagué, parce que je parlais beaucoup de jeux avec les gamins. À chaque fois, en début de cours, je leur demandais, alors, vous avez joué ces derniers temps, que vous avez fait ce week-end, etc. Donc, on parlait un peu de jeux. Alors, souvent, Warhammer revenait souvent. Donc je me vantais que moi j'ai travaillé pendant un moment chez Games Workshop, donc le leader mondial de la figurine fantastique. Et un jour quelqu'un est venu me voir en me disant ah, tiens, vous avez l'air de bien connaître les jeux, etc. Et justement j'ai monté un atelier. On voudrait créer les premiers livres ordinateurs ou livres console de jeux. Et pour l'instant, les prototypes qu'on a fait, ça amène beaucoup vers les jeux, mais on n'y connaît rien aux jeux. Donc c'est monsieur Étienne Mineur, et il m'a dit, je ne sais pas si vous avez des idées, on a pas mal discuté, j'ai envoyé je ne sais plus combien de mails à l'époque, des dizaines de mails, et à un moment, il a dit, écoute, viens à l'atelier à Bastille, et puis on va voir. Et puis là, j'ai commencé vraiment à travailler pour du jeu. Et en même temps, je sais plus comment, je crois en rencontrant un éditeur de jeux de plateau parce que il manquait des pièces dans un jeu de plateau que j'avais acheté. On a commencé à discuter, et puis il a commencé à me dire, bah tiens, ce serait bien que tu viennes pour des tests de jeux, des prototypes de jeux qu'on a reçus, et puis aussi sur des jeux pour travailler dessus, etc. Donc là, c'était avec l'éditeur Istari, qui avait une bonne réputation à l'époque, et ils faisaient des très très bons jeux, des jeux dits plutôt à l'allemande, hein, des jeux, on va dire, calculatoires, de gestion. Et puis voilà, ça a commencé comme ça, de plus en plus, et puis ce que je faisais avec Étienne Mineur, donc aux éditions volumiques, je faisais de plus en plus de choses. J'ai même même co-inventé une technologie de reconnaissance d'objets sur écran capacitif, ce qui a permis de signer pendant un petit moment chez Hasbro, qui est quand même le leader mondial du jeu et du jouet. Et parce qu'ils utilisaient notre techno, on a fait un autre jeu à nous aussi avec la techno que Hasbro a bien voulu développer, même s'ils voulaient pas au départ, parce que ils voulaient notre techno pour Monopoly, Bataille Navale, des marques très connues aujourd'hui. Monopoly étant le jeu le plus joué au monde, la Bataille Navale doit être aussi un des jeux les plus joués au monde. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, et puis ça a permis de me faire connaître, et puis on a commencé à me demander un peu dans tous les sens d'aider à travailler sur des jeux, à travailler dans des magazines, à écrire des articles, etc.
Ok, et je vais revenir sur tes expériences. Alors, t'aimes pas gamification, alors ludification, je sais pas.
Si, non, maintenant ça gamification, va. J'utilise beaucoup. C'était il y a quelques années, j'étais contre le mot, et en fait, on m'a même à un moment donné en grande école, université, on m'a dit tiens, ce serait bien que tu donnes des cours de gamification. Puis à force, c'est venu tout seul. Donc ça, je n'en vois sans problème. Non, c'est Serious Game avec lequel j'ai du mal, parce que Serious Game, jeu sérieux, c'est bon, ça me fait un peu rire, c'est un peu galvaudé comme terme. On fait des jeux, mais attention, hein, c'est comme c'est pour la société, l'entreprise, c'est sérieux. Hein,
justement.
Donc c'est pour ça, c'est juste ça.
Est-ce qu'il y a des comment c'est reçu par les professionnels lorsque tu l'utilisais en management, ou je ne sais pas si tu fais des interventions dans les entreprises?
Alors moi, quand je faisais du management, je le faisais entre guillemets que pour moi, de façon discrète. Donc j'en parlais pas particulièrement. Il y avait qu'à l'escrime que ça se voyait, évidemment. Mais et là aujourd'hui, c'est maintenant, on vient me chercher sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn. On va me dire tiens, j'ai vu votre profil, j'ai vu les posts que vous avez. Les réseaux sociaux, c'est un Facebook, LinkedIn, etc. Ce sont des très bons outils professionnels. Pour moi, ça me permet de communiquer sur ce que je fais. Et du coup, c'est comme ça souvent que je suis interpellé pour des demandes. Oui, bonjour, nous sommes un cabinet de formation. On voudrait un peu renouveler notre offre en proposition de formation, etc. On pense beaucoup au jeu parce que ça commence à bien se démocratiser, à rentrer dans la vie professionnelle, etc. On voudrait vous rencontrer, réfléchir à des solutions, etc. Donc ça arrive souvent comme ça. J'ai eu ça c'est vraiment à tous les niveaux, hein. J'ai bossé avec la DGSE, donc le service de nos espions à l'étranger. Alors, pour quelque chose qui n'est pas du tout sexy, hein, c'est pour, en fait, au niveau du service des achats, service financier, et c'était pour faire un jeu pour des employés pour qu'ils puissent se former et simuler des situations par rapport au marché public. Donc, voilà, un truc pas du tout sexy. Et comme le gars qui a initié ça, qui est le directeur financier la DGSE, qui est un petit malin, il s'est dit, bah tiens, comme c'est quelque chose de générique, qui concerne tout le monde, toutes les sociétés, toutes les collectivités locales, on va en faire un jeu générique. Alors ce sont les employés qui l'ont fait, moi j'étais là juste en conseil, et puis il a eu raison, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser partout. On a même participé à quelque chose que je connaissais pas, moi, au trophée des achats, qui est quelque chose qui a lieu tous les ans, où c'est des grosses sociétés qui présentent leur innovation en termes en termes financiers, en termes des achats, services financiers. Donc, vous allez avoir des sociétés comme Total, comme Air France, comme France Télévisions, etc. Et puis, bah, la DGSE, au sein du ministère des Armées, a présenté ce jeu et c'est nous qui avons gagné le premier prix. Et du coup, ça a fait beaucoup de pubs. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui veulent avoir ce jeu. Donc, ça peut être des entreprises, des collectivités locales, etc. Donc ça c'est DGSE, à la SNCF on m'a proposé de faire du conseil ou voire de créer des jeux pour la formation des conducteurs de train en Île-de-France, parce que c'est une formation quand vous avez 18 ans et le bac qui en un an vous propose d'être conducteur de train, sauf que conducteur de train, comme on sait, c'est extrêmement difficile parce qu'on peut avoir vous pouvez avoir en heure de rush 1000 personnes derrière vous. Et en cas de crise, de situation de crise, bah, il va falloir gérer tout ça. Et puis conduire un train, moi, donc je suis allé à Gare du Nord discuter avec eux, tester leur simulateur de train. Bah, en fait, conduire un train, c'est pas du tout facile. Je pensais qu'il y avait juste un accélérateur, un décélérateur. En fait, il y a plein de boutons dans tous les sens, plein de leviers, etc. Et c'est très technique, très mécanique, très électrique aussi. Et les gars, ils ont une pile de manuels plus grande que ma main à apprendre en un an, et beaucoup de cours théoriques. Ils se sont aperçus, ben, en fait, il y avait beaucoup d'échecs, et du coup, ils se sont dit, bah non, ça va pas parce que on investit de l'argent et au final, on garde pas beaucoup de gens, ou il n'y a pas beaucoup de gens qui restent à la fin de ces formations. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté pour voir ce qu'on pouvait faire comme possibilité de jeu. Donc ça peut être du jeu de plateau, du jeu vidéo, du jeu en réalité virtuelle, etc. Et pourquoi ils ont pensé à ça? Bah, c'est tout simplement pourquoi il y a de la gamification aujourd'hui et pourquoi le jeu, on le retrouve partout. C'est que, ça c'est ma théorie, hein, c'est ce que j'indique souvent en table ronde, en conférence, etc. C'est quand, bah, tout simplement, c'est le changement de génération qui fait ça. C'est que moi, je fais partie de la première génération de gamers. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Donc, moi, j'étais un gamin et un ado qui tentait de jouer à tout fin des années 70, début des années 80, qui connaissait les premiers ordinateurs aussi domestiques, donc les premiers jeux vidéo domestiques, outre les consoles de jeux. Et aussi, on découvrait les jeux de rôle, donc Donjons et Dragons et les autres. On découvrait les jeux de stratégie, les gros jeux de stratégie et de gestion. Et ben, les générations passant, ben, on trouve la catégorie gamer est de plus en plus grande à chaque génération. Et évidemment, aujourd'hui, on a beaucoup d'adultes qui jouent, qui continuent à jouer. Donc, j'ai des jeux de plateau, des jeux vidéo, des jeux de rôle, etc. Et qui transmettent à leurs enfants, à leurs neveux, mais qui transmettent aussi à leurs amis, à leurs collègues au travail. Il y en a qui jouent le midi au travail, qui jouent après le travail, ils restent dans les bureaux parce qu'ils ont, du coup, ils peuvent avoir un endroit consacré, ça peut être la cafétéria, etc., etc. Et je pense que, bah, maintenant, on trouve des gamers dans toutes les couches de la société, dans toute situation professionnelle. Et les gamers, qui sont au départ des gamers, on va dire, domestiques, et à un moment donné, dans leur réflexion, il y a certains aspects cognitifs qui font que, mais tiens, pourquoi on ne ferait pas du jeu au lieu de s'embêter à faire ça? Parce qu'on sait souvent en formation, on sait que même un adulte a une demi-heure d'attention active et puis après, ça devient nébuleux, etc. Alors que le jeu permet, alors ça ne se fait pas comme ça, hein, bien évidemment, mais le jeu permet de garder l'attention sur une plus longue période. Et du coup, même le jeu permet de créer des anecdotes, donc des souvenirs. Donc on se souvient mieux de ce qu'il faut en fait retenir, ce qu'il faut apprendre, etc. Ça on le sait tous, hein, les enfants apprennent en jouant, même les animaux d'ailleurs. Mais ce qu'on, souvent en France, on a fait très longtemps, on a dit, oh là, attention, là t'as 6 ans, là tu vas rentrer à l'école, la vraie école. Maintenant, pour apprendre, c'est l'école. Les jeux, après, ça reste secondaire. Et maintenant, la mentalité commence à bien changer en France. Et à l'école, de plus en plus, on va utiliser le jeu, vraiment le jeu pur, même le jeu de société, hein, Et je pense aussi que, ça je le vois parce que moi j'ai 4 enfants, qu'il y a des initiatives personnelles de professeurs des écoles, donc de maîtresses et de maîtres, qui tout seuls dans leur coin vont avoir des initiatives ludiques, propres à eux, et faire jouer des enfants pour leur faire découvrir plein de choses.
Et toi-même en tant qu'enseignant, tu utilises des mécaniques de jeu dans ton enseignement ?
Alors moi, c'est particulier parce que moi, je propose de créer des jeux. Donc, utiliser du jeu pour créer des jeux, c'est très difficile. Surtout que moi, je change de plus en plus ma façon de faire. Au début, quand j'ai commencé à enseigner le jeu, alors surtout la création de jeux, hein, c'est ce qui est le plus important pour moi, parce que pour moi, la création, c'est le but ultime de la vie, hein, pour n'importe qui, mais ça peut être création, je sais pas, littéraire, création plastique, ça peut être n'importe quoi, hein, le principal, c'est de créer. Avant, moi, je faisais beaucoup de théorie, donc j'expliquais ce qu'était le jeu, comment fonctionnait les mécaniques de jeu, et que ça. Et en fait, je fais de moins en moins, parce qu'encore une fois, même... Moi, les étudiants, je me dis, mais vous vous rendez compte quand même que là, vous êtes en cours de jeu, en cours de création de jeu. Moi, j'aurais tellement aimé découvrir ça il y a 30, 40 ans. Mais bon, évidemment, eux, ils sont à l'école, ils sont en cours. C'est pas. Alors, certains sont à fond, ils sont pas tous à fond, surtout dans des cours où on n'est pas. C'est pas des cours qui amènent vers des professions du jeu vidéo. Donc évidemment, on va trouver moins de personnes motivées. Et encore, là, en général, à 80-90%, ils sont à fond. Parce que quand même, ils se disent, les jeux, c'est cool. Surtout la création de jeux. Ça va leur servir, en plus, dans leur CV, de mettre dans leur book un prototype de jeu. Donc maintenant, moi, je passe de plus en plus souvent, je fais très peu de théorie et très vite. Je les mets dans le bain, dans la pratique. Parce qu'encore une fois, c'est souvent la pratique, hein, comme de jouer un jeu, dans la pratique qu'on retient. Parce que là, j'aurais beau leur balancer 15 000 théories de jeu, etc. Au final, il ne va pas en rester grand-chose. Donc, je les mets tout de suite dans le bain. Et moi, mon objectif, c'est de les pousser à créer. Donc, qu'ils créent des jeux, qu'ils créent des prototypes de jeux. Et qu'ils aient un appui, qu'ils aient quelque chose à montrer, à mettre dans leur CV, dans leur book, etc. Donc c'est ça aujourd'hui, surtout mes cours.
Et comment est-ce que tu imagines les jeux de demain, les futurs jeux ?
Alors, les jeux de demain, on a cru que ce serait le jeu vidéo qui allait sortir son épingle du jeu et qu'il allait rester, qu'il n'y aurait rien d'autre. Et finalement, on s'aperçoit que les jeux tangibles, hein, les jeux de société, les jeux de rôle sont bien présents et de plus, il y a de plus en plus de joueurs. Donc, c'est très difficile à dire de prévoir ce que va être le futur de jeu. Moi, j'ai bossé sur ce qui était considéré comme peut-être ce qu'allait être l'avenir du jeu et ce qui va peut-être l'être, c'est-à-dire des jeux hybrides qui mélangent jeux de plateau et jeux vidéo. Et je bosse encore dessus, d'ailleurs. On voit aussi beaucoup les jeux avec la réalité augmentée ou la réalité... la réalité virtuelle ou ce qu'on appelle aussi la réalité mixte maintenant, qui mélange un peu les deux, qui arrive aussi beaucoup, qui ne sont plus un gadget. Moi, cette année, j'ai récupéré une solution de VR, de réalité virtuelle avec l'Oculus, et avoir ça à la maison, en fait, ça change beaucoup la donne. En fait, il y a vraiment des vrais jeux qui existent en VR, et c'est pas juste du gadget ou de l'expérience. Donc là, il peut se passer pas mal de choses. Et alors, je pense que l'avenir, c'est et il faut, c'est super, très très important, c'est des jeux tangibles, des jeux qui permettent de se retrouver autour d'une table, donc des jeux avec un fort aspect sociétal, où on se retrouve, où les sourires, les clins d'œil, les regards sont hyper importants, surtout dans le processus de jeu. Mais aussi, il va y avoir beaucoup de présence de technologies. Là, on voit, encore une fois, avec des jeux hybrides qui vont utiliser nos smartphones, nos tablettes, Google Home avec l'aspect sonore. Il y a beaucoup de choses qui se préparent quand même, donc un appui technologique au niveau des jeux hybrides.
Ouais. Et Qu'est-ce que tu as comme retour de la part des joueurs par rapport à cette utilisation de ces supports, smartphone, tablette, etc.
Ouais, alors il y en a qui sont hyper réfractaires, qui vont dire non, non, mais moi le jeu c'est du carton, c'est du papier. Bon, ok, d'accord, si tu veux, mais sinon il y a beaucoup, ça enthousiasme beaucoup de monde. Ça enthousiasme beaucoup, beaucoup de monde. Ça, depuis que moi je bosse dessus, ça fait un peu moins de 10 ans. Parce que ça, il y a quelque chose de magique, hein, de magique. Parce que avec la technologie, on peut vraiment ajouter de la magie. Nous, quand on a lancé notre techno où on posait une figurine sur une tablette, à l'époque c'était l'iPad, sur une tablette, et que la figurine était reconnue par l'iPad, et qu'en plus de ça, l'iPad reconnaissait l'orientation et le déplacement de la figurine. Même aujourd'hui, quand je le montre, d'ailleurs je l'ai montré, là j'étais au Bahreïn il y a un mois, parce qu'ils veulent ils sont à fond dans le développement du jeu dans le Moyen-Orient. Même maintenant, quand je montre ça, c'est considéré, entre guillemets, comme de la magie. Donc avec la techno, même pour des jeux tangibles, on peut faire quelque chose. Donc moi, je suis pour, à fond, l'emploi de la techno, surtout si c'est pour jouer, si c'est pour jouer à plusieurs autour d'une table, et que l'aspect social est très présent. Okay. Mais il ne faut pas croire, hein, je suis à fond, j'adore les jeux vidéo, hein, jouer tout seul sur mon ordi, j'adore ça aussi. Hein.
Ok, ça marche. J'ai lu que ton souhait, c'est de faire jouer le plus grand nombre de personnes. Comment est-ce qu'on peut y arriver ?
Alors, c'est mon credo depuis 10 ans. Et ben maintenant, on y arrive. De toute façon, on y arrive complètement par rapport à tout ce que j'ai indiqué là depuis le début de notre discussion. Et un gros biais, un des gros biais, c'est le jeu en entreprise. Évidemment, ça amène beaucoup de nouveaux joueurs. Et puis aussi ce renouvellement du jeu de table, qui, ben, il faut pas être tout seul pour jouer, il faut être plusieurs, donc fatalement on va aller chercher des joueurs. Mais ça n'empêche que certaines applications proposent de même jouer à plusieurs à distance, comme Roll20, on peut faire du jeu de rôle. Avant, alors souvent l'excuse, hein, c'est de pas faire du jeu de rôle, c'était dire ouais, bah voilà, tous mes potes maintenant, ils ont une femme, ils ont des enfants, ils ont déménagé, ils ont moins le temps, ils sont loin, etc. Bah maintenant, c'est plus une excuse, parce qu'on a des applications qui permettent de jouer à distance. Alors surtout pour le jeu de rôle. Donc comme j'ai indiqué d'ailleurs, Roll20, par exemple, il y en a d'autres. Hein. Je sais qu'il y a des solutions en France qui vont arriver. Donc Roll20 est utilisé en France, hein, mais des solutions françaises. Donc l'offre risque d'être pléthorique un jour. Donc on peut jouer à distance sans problème aujourd'hui, grâce à la technologie. Donc finalement, il y a rien qui empêche le fait que le jeu se développe, qu'il y ait de plus en plus de joueurs, etc.
La mentalité est prête aussi à accepter.
Ouais, en France, alors c'est ce que je dis moi, c'est qu'en France on se germanise. On devient comme nos cousins germains, donc les Allemands qui sont, eux, depuis très longtemps, ils sont des joueurs, ils jouent beaucoup en famille, ils jouent beaucoup entre amis depuis très longtemps. D'ailleurs, l'Allemagne a été souvent une référence, hein, le prix le plus reconnu, le plus fameux, c'est ce qu'on appelle le Spiel des Jahres, le jeu de l'année en Allemagne, qui a lieu tous les ans, et il se dit qu'un jeu qui reçoit ce prix à des centaines de milliers de ventes assurées. Et maintenant, il y a de plus en plus de Français qui gagnent ce prix. Et d'ailleurs, les Français sont de plus en plus présents en Allemagne, d'ailleurs. Et beaucoup de jeux français. Le jeu français a une certaine réputation et une certaine qualité, que ça soit au niveau des mécaniques de jeu, mais aussi, très important, au niveau de l'aspect esthétique, des illustrations. On a de très très bons et de très grands illustrateurs en France. Bon, c'est un peu une tradition dans le domaine art plastique. Et aussi en Allemagne, ils ont le Spiel, donc une manifestation annuelle qui a lieu à Essen en Allemagne, et qui est vraiment la mecque du jeu société tous les ans, où là on va retrouver presque tous les éditeurs au monde qui vont là-bas. Et d'ailleurs, maintenant, on commence à trouver des, des éditeurs d'Extrême-Orient, du Moyen-Orient, donc d'un peu partout maintenant, donc des Brésiliens, de partout dans le monde. Ça, c'est extraordinaire. Hein.
Bon, on arrive aux dernières questions. Est-ce que y a-t-il un jeu que tu recommandes en particulier ?
Alors moi, je recommande un jeu, mais c'est un type de jeu en fait. C'est un type de jeu, c'est le jeu de rôle. Parce que comme je disais tout à l'heure, pour moi, le jeu de rôle, c'est la quintessence du jeu. Et surtout, je dis ça parce que le jeu de rôle, en fait, quand vous commencez à y jouer régulièrement, à vraiment vous y intéresser, voire à être maître de jeu ou simplement joueur, le jeu de rôle pousse naturellement, c'est vraiment l'intérêt de ce jeu, de ce type de jeu, pousse naturellement à la création. Et encore une fois, pour moi, la création, c'est hyper important. Et le jeu peut être un biais, un support qui favorise la création. Donc, le jeu de rôle, il va pousser à la lecture, parce que très vite, les jeux de rôle, c'est quand même, c'est un bouquin, un bon bouquin qui fait plusieurs dizaines de pages, voire des centaines de pages, qui va décrire les différentes mécaniques du jeu. Et encore, on peut dire que l'aspect technique, l'aspect mécanique du jeu d'un jeu de rôle, on peut le mettre en arrière-plan. Ce qui va être surtout important, c'est l'univers dans lequel on va évoluer dans le jeu de rôle. Et le bouquin de 300, 400 pages, ça peut être moins, hein, ça dépend de l'univers. Ben, en fait, ça va être surtout une description de l'univers. Et là, ça, c'est fabuleux quand même, parce que on a des personnes qui ont bossé sur un univers qui peut être d'ailleurs complètement original, qui peut être tiré d'un film, d'un roman, comme Le Seigneur des Anneaux, encore une fois. Qui peut être tiré d'une série télé, et en fait, quand on voit le travail qu'il y a derrière sur la synthèse de l'univers, c'est quand même fabuleux. Et c'est ce qui prend le plus de temps en plus. Hein. Vraiment, le système de jeu, à mon avis, ça reste à ce niveau-là secondaire. Donc, quand on commence à s'y intéresser, quand on commence à s'intéresser à l'univers, ben, à un moment donné, on se dit, tiens, le jeu qui est tiré du Seigneur des Anneaux, bah tiens, mais je vais peut-être quand même lire les bouquins. Et puis qui dit lecture dit écriture. Puis à un moment donné, on a envie d'écrire ses scénarios, un scénario pour faire jouer ses joueurs. Donc créer différentes situations pour une partie, pour un soir, pour les joueurs qui incarnent. Il y en a un qui va incarner un guerrier, l'autre un elfe magicien, un autre un humain soigneur, je sais pas. Et très vite, on a envie de créer ses propres scénarios, donc de l'écriture, de la création, et voir créer son jeu de rôle. C'est pour ça que pour moi, le jeu de rôle est très très important. Et je pense ou j'estime que le jeu de rôle doit devenir une matière à l'école. C'est tellement riche, c'est tellement littéraire et mathématique aussi par rapport au système de jeu. Ça peut être aussi parce que quand vous créez un univers, vous êtes obligé de vous intéresser à comment fonctionne pour que ça soit cohérent, encore une fois, comment l'histoire, la géographie, la faune, la flore, l'économie, etc., etc. On est obligé de s'intéresser à tout. Donc, je parle de notre monde à nous et de voir comment ça fonctionne pour créer quelque chose qui est à peu près cohérent.
Ok. Si on veut en savoir plus sur toi et sur ton travail, où peut-on te trouver?
Sur les réseaux sociaux, c'est là où on me contacte le plus. Hein. Facebook est un très très bon outil pour ça, aussi bien pour que je fasse mon commercial et parler de ce que je fais, que pour me contacter. Alors moi j'ai souvent, presque toutes les semaines, j'ai des demandes de contact pour, je travaille là-dessus, avec des amis, on a envie de monter une société pour créer tel type de jeu, mais on n'y connaît rien, est-ce qu'on peut vous rencontrer? Donc toutes les semaines j'ai des demandes de genre. Et puis après, évidemment, j'ai des professionnels, qui, soit des éditeurs ou des gens qui travaillent, qui ont besoin de développer leur communication, développer la cohésion d'équipe au sein de leur entreprise, etc. etc.
Ça marche. Donc Facebook, Twitter.
Et ouais, Facebook, LinkedIn, Twitter.
Super. Ben, ouais. Merci Farid Ben Salem.
Merci Mathieu. À bientôt.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode.